Au commencement, il y a la honte. Elle plane à l'intérieur de toi, insaisissable et délétère. Un cancer, une méduse qui t'habite, te constitue. Un putain d'alien dont l'existence est entièrement vouée à pourrir la tienne, à s'épandre, à t'étouffer de l'intérieur. Tu as 7 ans, 6 ans, 9 ans, pas 50 comme aujourd'hui. Les mots te font défaut et aussi les idées. La colère n'est pas encore née, qui te permettra de sortir et regarder. La honte le sait. Cette salope se nourrit du silence et du tabou. Et comme vous faites corps depuis toujours, le tabou c'est toi. L'interdit c'est toi. Rien d'autre n'existe que cette indicible vérité, tu ne devrais pas être. Elle saute aux yeux de tous ceux qui te voient donner la main à ta mère, à ta grand-mère, à ton grand-père. Tu es la pièce rapportée, le produit d'une action contre nature. L'enfant d'un démon, incube ou succube, reparti dans son enfer personnel après s'être délesté de sa semence de paria. Tu ne devrais pas être, mais tu es. Cela est manifeste. Alors, autant se taire et prétendre que tout va bien. Autant vanter les vertus du mélange, faire de toi l'avant-garde d'une humanité métisse, d'un avenir radieux. Autant parler d'autre chose, mais pas de la violence. Autant oublier la haine, l'amertume, la rancœur. Autant faire comme si, autant. Et puis un jour, boum, la vérité.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En mai 2015, sortait aux éditions Viviane Amy un petit livre, bref, rageur, douloureux, mais porté par le rire vengeur d'un humour noir et percutant. Un petit livre débordant de vie dans lequel pouvaient se reconnaître tous ceux qui, par choix ou par nécessité, doivent tracer leur route en dehors des chemins bien balisés, hors du cadre étroit déterminé par la race, le milieu social, la religion, le sexe. Sur la couverture, la reproduction de clichés noirs et blancs sur une planche contact. Un petit enfant entre son père, très brun, peau foncée, et sa mère, chignon lisse et teint nacré. Photo attendrissante de jeunes parents aimants, penchés avec une tendresse évidente sur leur fils. Photo banale qui soudain éclairait le titre plutôt étrange. Le verbe « appartenir » précédé d'un N apostrophe et majuscule. « N'appartenir » était signé Karim Misquet, documentariste remarqué pour ses films sur les fondamentalismes religieux aux États-Unis, ainsi qu'une passionnante série pour Arte sur juifs et musulmans. Ce petit livre, « N'appartenir », Karim Misquet l'avait commencé sous Sarkozy, alors que le débat sur l'identité nationale déchirait la France. Et il l'a publié en 2015, sous Hollande, tandis que les politiques débattaient de la déchéance de nationalité. Né dans le 5e arrondissement de Paris d'un père mauritanien, officiellement musulman bien cathé, et d'une mère marxiste orthodoxe, elle-même issue d'une famille catholique, mi-bretonne, mi-vendéenne, Karim Misquet s'est constamment vu étiqueté dans le regard des autres. Blanc en Afrique, mais héritier de l'histoire complexe de sa lignée, arabe à l'école française et sommé de correspondre à la caricature post-coloniale. Heureusement, il y a eu la musique et les livres et ce que l'on apprend, parfois durement, dans les chemins de traverse que l'on finit par emprunter pour, sinon appartenir à un groupe, au moins s'appartenir et savoir qui l'on veut être. D'ailleurs, l'adaptation de son livre en bande dessinée, qui vient de paraître chez Viviane Amy, s'intitule bel et bien « S'appartenir ». Et c'est le dessinateur Antoine Silvestri qui l'a réalisé. Ils sont tous les deux aujourd'hui les invités de l'Humeur Vagabonde.
Rewind. election all over the news. Your temperature's well past 102. Put the guns away or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw.
Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase imprudente. C'est celle-là qui sera épinglée. Et qui incitera à dire, vous voyez bien. D'ailleurs, c'est le président de la République qui l'a dit. Ils me répéteront peut-être sans mettre exactement le même sens au propos que je tiens.
Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation.
Bonjour Karim Misquet.
Bonjour.
Bonjour Antoine Silvestri.
Bonjour.
La voix de Mitterrand, c'était en 1987. Celle de Sarkozy est toute récente. J'ai envie de vous demander, vous-même, Karim Misquet, qui êtes passé du livre « N'appartenir » au roman graphique « S'appartenir », on voit que vous avez fait du chemin. Est-ce que vous trouvez que le chemin fait par les politiques est bien approprié?
Oui, on dirait que le chemin va un peu dans l'autre sens, même si dans le cas de François Mitterrand, c'était intéressant le chemin que lui-même avait accompli, ayant été ministre des colonies dans sa
sous la
jeunesse,
4e République,
la 4e République. Donc, mais oui, non, le chemin, c'est très compliqué. Les politiques clairement prennent un chemin aujourd'hui que, pour ma part, je qualifierais en tout cas d'assez douteux. Enfin, il joue, je pense, des jeux assez dangereux avec ces questions de l'identité. La société française, le chemin qu'elle prend, ça, c'est une autre question. Je pense qu'elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diverse que les discours politiques ne voudraient le faire paraître.
Alors, c'est très intéressant le changement de préfixe, le S apostrophe qui a remplacé le N apostrophe pour l'adaptation de ce petit livre en bande dessinée, en roman graphique, pourrait-on dire. Antoine Silvestri va sûrement nous en dire sur le roman graphique et la bande dessinée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Est-ce que c'est un changement parce que le support s'est modifié? Ou est-ce que c'est un changement qui exprime quelque chose de vous-même?
Alors les deux potentialités étaient dans le texte initial qu'Antoine a adapté, n'appartenir, puisque les deux mots se trouvent en fait à la fin du livre. C'est un petit peu la conclusion de tout cet itinéraire d'un demi-siècle. Et effectivement, on pourrait penser que dans la première version donc du texte non illustré, c'est plus quelque chose de l'ordre de la colère qui l'emporte, même s'il y a bien d'autres choses dans le livre, et que ensuite la transformation, alors roman graphique ou bande dessinée, je sais qu'Antoine préfère bande dessinée, donc je vais dire bande dessinée puisqu'il est dans le
oui,
dans
sinon
le studio.
Il va se fâcher, ouais.
Et que c'est lui qui a fait tout le travail d'adaptation, mais je crois qu'effectivement le dessin donne réellement autre chose. Bon, son regard à lui, bien sûr, mais ça, je ne saurais pas exactement comment définir ça, mais il y a sans doute quelque chose qui s'apaise dans la transformation du texte seul, disons, à la version bande dessinée.
Antoine Silvestri, alors, bande dessinée, résolument.
Résolument bande dessinée.
Roman graphique, c'est un peu snob, non ?
Tout à fait.
Mais c'est chic. En fait, ça permet aux gens qui lisent des livres
de dire qu'ils bandent pas, qui lisent pas de la bande dessinée, pardon.
Intéressant lapsus. Tout à fait. Oui. Donc, bande dessinée, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure ?
Alors, je me souviens d'un soir où on s'est retrouvés tous les deux dans une soirée chez un copain qui fêtait son anniversaire. Le thème de la soirée, c'était le whisky. Et à un moment, on était dans la cuisine. Et Karim vient, on n'avait jamais vraiment discuté tous les deux, et quand ça me parlait de mon travail, à vouloir se renseigner dessus, je me dis, tiens, ça ne m'étonnerait pas qu'il me propose un boulot, un de ces quatre. Et bingo, 15 jours après, il m'appelait, bon là, il y a mon dernier texte, m'appartenir, mon éditeur voudra en faire une bande dessinée, est-ce que tu serais partant ? Vu l'importance du projet, bah, moi j'ai tout de suite dit oui, évidemment. Et donc au départ, j'ai illustré 2-3 planches comme ça, j'ai fait 2-3 planches d'essai. Et puis après, j'ai lu le texte qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que je me suis retrouvé dedans à pas mal de niveaux, et puis parce que je le trouvais intéressant, je le trouvais fort, et puis bah voilà, j'ai donc présenté les planches à Sylvie Pereira de Vianami, ça leur a plu, et donc c'était parti.
Mais on imagine bien, Antoine Silvestri, que pour, alors à l'inverse d'un travail que vous faites vous-même parce que vous y avez pensé, avec un copain par exemple, comme pour vos précédentes bandes dessinées, celui-ci, on vous le proposait, mais il fallait que vous vous y retrouviez vous-même, que vous adhériez à un certain nombre de choses. Alors, vous n'êtes pas du tout, comme Karim le disait dans son livre, typé, c'est-à-dire que vous, francaoui de base, ancêtre les Gaulois, et pourtant, c'est vrai que ce qu'écrit Karim, qui peut parler à des tas de gens, en quoi est-ce que ça a résonné chez vous ?
Alors, ça a résonné de plusieurs manières chez moi. Déjà, le texte m'a plu, donc ça m'a intéressé. Voilà, ça c'était déjà suffisant pour moi comme base de départ. Deux, je m'y suis retrouvé parce que, à une mesure bien moindre que Karim, le sentiment de n'appartenance, je me le suis pris dans la figure plusieurs fois quand j'étais. Pendant toute ma vie en fait, et notamment quand j'étais enfant, enfin ça a commencé quand j'étais enfant. Ça peut prêter à sourire, mais. Ma mère était autrichienne, et en fait, j'ai eu à souffrir de ça un peu tout le temps. Pas de manière violente, comme je disais à Karim le jour, on m'a jamais refusé l'entrée d'un bar, j'ai toujours pu rentrer dans les discothèques, on m'a jamais refusé un travail à cause de ma couleur de peau, mais voilà, je sais que la première fois que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était quand j'étais en CM2, qu'on étudiait la Révolution française, et que juste après nous avoir appris la Marseillaise, la maîtresse qui était campée sur son estrade m'a regardé droit dans les yeux et nous a parlé de l'autre chienne en parlant de Marie-Antoinette.
De Marie-Antoinette,
et du sort qu'on allait lui faire.
Et en regardant, c'est incroyable.
C'est très violent. Moi, j'avais 10 ans, terrorisé. Et puis après, c'est des trucs aussi bêtes que mes parents qui avaient acheté une maison à la campagne. Dans le village, on était les boches. C'est que des choses comme ça.
Mais en fait, Karim Misquet, c'est vrai que chacun, quand on trouve des échos dans votre livre, N'appartenir, et maintenant dans S'appartenir, on pense tout de suite à d'où on vient, d'où viennent nos parents, qu'est-ce qu'on a de différent des Gaulois. Et puis en fait, quand on y réfléchit, on se dit que c'est pas tellement ça l'important, que le sentiment d'appartenance ou de non-appartenance, en fait, il doit se développer en nous et que ça devient une force de ne pas appartenir à une masse, mais de choisir la communauté ou la toute petite communauté même à laquelle on a envie d'appartenir. Au fond, le passage du N apostrophe au S apostrophe, c'est une sorte d'apaisement intérieur quand on se rend compte qu'on a le droit de choisir, sinon ses racines, du moins les gens de sa famille élargie.
Oui, effectivement, et c'est ce cheminement-là. C'est-à-dire que d'abord, on se dit que, ben, on rentre pas dans les cases. Et puis après, peut-être qu'on se rend compte, en tout cas, pas mal de gens qui ont suivi des itinéraires complètement différents se rendent compte que c'est impossible de rentrer complètement dans une case, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de faire corps réellement avec une identité, même si beaucoup de gens veulent nous faire croire que c'est possible, voire même souhaitable. Et donc, à partir de là, on est obligé de faire un chemin personnel pour trouver où est-ce qu'on se positionne. C'est presque géographique aussi, c'est-à-dire... De toute façon, on est toujours à l'intersection de plusieurs types d'appartenance possibles, de plusieurs identités. On est jamais une seule chose. Bon, déjà, il y a les questions de genre, après, voilà, de religion, on peut rajouter la politique, les couleurs de peau, ethnie, goût culinaire, enfin bon, la liste est infinie. Mais dans la plupart des identités, en tout cas des grosses identités, il y a toujours une sorte de chantage identitaire qui va avec. Et en fait, la difficulté, c'est pour ça que j'ai commencé par n'appartenir, la première difficulté, c'est de s'en libérer. C'est de se dire, bon, on veut me faire croire que être de telle identité, c'est penser ça, ça et ça, ou agir de telle et telle manière, et en fait, ben non, pourquoi ? Et on est, heureusement, pour le moment, dans une société où on a la possibilité de faire ce choix. D'autres gens, dans d'autres parties du monde, ne l'ont pas.
Alors, Karim Misquet, on voit bien, d'ailleurs, quand on chemine à travers les pages de n'appartenir ou de s'appartenir, qu'il y a un moment dans la vie, quand on passe de la petite enfance à l'adolescence, où on a assez envie de se conformer à la caricature que les autres nous offrent de vous-même. Bon, alors, on connaît la phrase de Sartre, vous la citez, hein, c'est l'anti qui crée l'appartenance. Au fond, ensuite, on n'a plus besoin de répondre à cette provocation.
Ben après, ça dépend qui. Le problème, et ça, c'est que beaucoup de gens... Enfin, je dis ça, c'est pas un jugement. Je comprends très bien, hein, qu'on puisse se trouver bien au chaud dans une identité. J'ai aucun jugement là-dessus. Je veux dire, c'est l'affaire de chacun. Le problème, c'est les injonctions. Mais pas mal de gens, effectivement, vont s'arrêter. Donc la phrase de Sartre, c'était « c'est l'antisémite qui fait le juif ». Moi, un jour, j'ai écrit une tribune pour Le Monde qui s'appelait « c'est l'islamophobe qui fait le musulman ». Et puis, je me suis rendu compte que de toute façon, c'était une aporie. C'est-à-dire que j'ai essayé, en écrivant ça, moi, de me définir en l'occurrence comme musulman, donc me définir, me mettre à la place où on me mettait au vu de mon apparence et de mon nom, mais malgré tout, il y avait un truc qui marchait pas. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire qu'il fallait aller un peu plus loin que ça et trouver un chemin qui finalement n'appartient qu'à chacun, ce qui ne veut pas dire se réfugier dans un individualisme. Je pense que si on sait qui on est, on peut faire au contraire plein de choses avec les autres, parce que ce ne sont plus des affinités obligatoires, et effectivement on peut se créer sa propre famille. Mais c'est marrant, c'est assez difficile de parler de ce genre de choses. C'est pas un livre de développement personnel, hein. L'idée c'est pas du tout ça.
Vous appelez pas Servan Schreiber, on a compris.
mais effectivement, je pense que face à toutes ces injonctions, bon, c'était voilà, vous avez mis ces deux extraits de deux présidents, et notamment celui du deuxième, sur cette idée que bon, être français, c'est accepter d'avoir c'est revendiquer même des ancêtres gaulois. Ça, c'est une des injonctions. On est bombardé en fait en permanence de ce type d'injonction. Après, si on est à l'intérieur d'une communauté, bon, j'ai fait un film sur les juifs et les musulmans, je vais pas vous faire un dessin sur le type d'injonction auquel les uns et les autres sont soumis en permanence. Et c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile d'arriver à s'en libérer, parce que c'est trahir, c'est être dans la transgression, et c'est ça qu'on vous met en face. Ah, mais tu n'es pas un bon juif, un bon musulman, un bon noir, un bon blanc, un bon ce que vous voulez.
Être bon, oui, être bon, c'est un peu compliqué. On va écouter la lecture d'une autre partie de votre livre, Karim Misquet.
Longtemps, j'ai tenté d'appartenir, toujours assez mollement, sans grande conviction, sachant d'avance au plus intime que ça ne marcherait pas. Mais les meilleurs mensonges sont ceux que l'on se raconte. Et puis, ça avait l'air de satisfaire tellement de gens, ce truc. Choisir une place, une catégorie, y pénétrer, s'y lever... Faire comme si le bonheur y résidait, le sens de la vie aussi. En mode lit de Procuste, on coupe tout ce qui dépasse, on s'arrange comme on peut du résultat. On va bien, si bien. Renversement, conversion, absorption, dissolution de l'être et du désir, de toute perspective de désir autonome. J'en ai rêvé de ce retournement, sans persévérance et à moitié, mais j'en ai bel et bien rêvé. J'en avais tant vu la suivre, la voie du renoncement à soi, qu'arrivé à l'âge adulte, j'ai tenté à mon tour de l'emprunter de diverses manières. L'appartenance d'abord, arabe ou africaine, voire afro-arabe. La foi ensuite, religieuse, politique, non, c'était dead. Dans le désert, j'ai tenté d'être touché par la grâce de la prière. Et ça a failli marcher. Le sentiment océanique, le grand tout, la transcendance, j'ai ressenti tout ça. De là à nommer Dieu cette sensation si humaine, non, pas moyen. Chez les cathos aussi, j'ai tenté ma chance tant qu'à faire. Fréquenter des églises, allumer des cierges, communier en loose day, moi le non-baptisé, j'en ai retiré le frisson de la transgression, pas celui de la révélation, juste un arrière-goût de carton. Toutes ces errances pour échapper, on peut rêver, à cette malédiction de la non-appartenance, me débarrasser des affres du miroir de l'intranquillité. Savoir non pas qui, mais bien où je suis. Expérimenter cette sensation amniotique dans différentes matrices identitaires, les comparer. Y renoncer enfin. Rester installé dehors, bien au froid, dans la réalité décevante du monde. Admettre une bonne fois que c'est ainsi. Mon histoire, mon destin.
Antoine Silvestri, il y a dans le texte de Karim Misquet que vous avez dessiné pour les éditions Viviane Ami, beaucoup de scènes qu'il était intéressant de créer pour un dessinateur, quand il est en Mauritanie, quand il est en Albanie. Mais il fallait aussi dessiner de la pensée. Dessiner de la pensée, à la fois ça doit être excitant pour vous, et en même temps, on doit se poser pas mal de questions sur le choix de la couleur, sur comment trouver une accroche, une entrée.
Alors, moi, c'est vrai que sur toute cette partie du travail, en fait, j'ai fait surtout appel à moi-même. À savoir que j'ai vraiment pris le livre de Karim et je l'ai ingurgité et je l'ai régurgité comme ça, quoi. Enfin, par exemple, le passage sur où Karim et sa mère se promènent sur l'eau, une espèce de Styx, entre des grandes bouées qui représentent tous les grands dignitaires de l'histoire de la Révolution triomphante. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé dans le travail de Karim. Je suis issu d'une longue famille de tradition communiste. Voilà, donc je connais tout ça. Et puis, je prends mes obsessions. J'ai une obsession pour Venise. Voilà, j'ai mis une gondole vénitienne. Dès qu'il s'agit de ce genre de choses, c'était moi-même que je mettais. Enfin, j'avais pas vraiment besoin de vous dire pourquoi j'ai choisi telle ou telle couleur, telle ou telle. Incapable.
Il y a des couleurs éclatantes parfois, et puis parfois on se retrouve dans le gris, le brun, le sombre.
Oui, ben oui, dès qu'on parle de la dictature, notamment de l'Albanie, c'est impossible de mettre des couleurs chatoyantes, sauf à se mentir, quoi.
Et puis il y a la petite tête de Karim enfant, Karim Misquet. Elle est très sympathique, cette petite tête. Est-ce que vous vous y retrouvez?
Oui, je pense que il y a juste la bonne distance pour que ce soit moi et pas moi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était assez c'est troublant de devenir un personnage de BD sans en plus se dessiner soi-même. Moi, j'ai pas ce talent pour le dessin. Je suis pas Marjane Satrapi ou Riyad Sattou. J'aurais été absolument incapable de le faire. Et donc, du coup, ça a été le rôle d'Antoine de rentrer, c'est presque comme un comédien en fait, qui rentre dans un personnage. Et oui, je m'y retrouve, c'est complètement ressemblant, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que c'est réellement un dessin et que c'est réellement un personnage qui a aussi son autonomie. Et ça, c'était vraiment important, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ou à l'âge adulte, que ce soit pas non plus un portrait hyper réaliste. Voilà, je pense que ça aurait été un petit peu plus troublant. Bon, évidemment, c'est un récit autobiographique, mais c'est quand même un livre, voilà, ou une bande dessinée, un roman graphique, on l'appellera comme on voudra. Donc c'est une œuvre qui doit avoir sa vie propre. Donc c'est une sorte de double, en fait, qui peut avoir son existence autonome à l'intérieur des pages.
Il a fallu couper un petit peu de texte.
Il a fallu couper un petit peu. J'aurais été absolument incapable de le faire. Donc là, c'est vraiment, on a travaillé avec beaucoup d'allers-retours, évidemment, mais c'est vraiment Antoine qui a fait cette adaptation, parce que moi, j'aurais été incapable de m'adapter moi-même. Et de toute façon, ça aurait été impossible, parce qu'il fallait aussi penser en image. Bon, moi j'écris effectivement souvent avec il y a des images qui peuvent surgir du texte, mais après savoir quelles images, savoir quelle partie du texte va pouvoir s'illustrer, ça ne pouvait passer que, j'allais dire, presque par le corps du dessinateur de l'adaptateur. C'est vraiment quelque chose de mystérieux qui s'est fait à l'intérieur d'Antoine.
La vie c'est bon, mais pas trop quand même. Du bon côté, d'Acadie au bas, d'Oyé à Méa, au dos la Nabénan, il y a du bon côté.
Les livres qui m'ont aidé, alors là, ils sont légion. Les livres où il y a quelque chose, on sait bien qu'il y a quelque chose pour vous, et c'est une effraction dans le malheur. Il faudrait parler beaucoup du hasard et des lectures. À chaque fois, c'est une sorte, on se dit que la rencontre aurait pu ne pas avoir lieu. Et quel est lieu ? C'est ça qui est formidable. Très, très curieusement, il m'en revient un souvenir, c'est les pensées de Pascal. Quand j'ai 16 ans, et la nausée, bien sûr. Et ça a été une immense découverte d'une façon d'écrire. Il était possible d'écrire de cette façon. Il était possible de se poser les questions qui se posaient. Il était possible que le personnage passe sa vie dans des cafés un peu glauques. Et c'était très beau. Je dis c'était beau parce que la fin de la nausée m'a toujours interpellé. Roquentin, qui écoute ce disque à la fin, il l'a écouté plusieurs fois, ce disque de ce qu'il appelle la négresse hein, à l'époque. Voilà. Et d'un seul coup, il a la révélation. Il était sauvé. La femme qui chante, elle sauve les gens et elle est sauvée. Et il se dit, peut-être que si j'écrivais un livre, je serais sauvé. Et ça finit par « Demain, il pleuvra sur Bouville ».
Et voilà Annie Ernaux, bien sûr, qui parle de l'importance qu'ont eu les livres pour, elle aussi, apprendre à s'appartenir, Karim Misquet. Les livres et la musique, ça a été la planche de salut, comme pour beaucoup d'adolescents qui cherchent à échapper à la prédestination de leur milieu social. La musique, alors j'imaginais que pour vous deux, les Sex Pistols, ça a dû aussi vous rapprocher, parce que vous partagez cette passion adolescente sur laquelle nous n'allons pas nous étendre. Mais la littérature comme une patrie, c'est vraiment ça. Karim Misquet.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme je l'ai écrit, le pays où il est possible d'exister. Bon, après, il y a des raisons très contingentes. Comme vous le dites, effectivement, on est adolescent, on veut échapper, etc. Moi, dès l'enfance aussi, parce que j'ai des demi-sœurs, mais j'ai grandi comme un enfant unique. J'étais le seul enfant de ma mère, donc et il y avait que des adultes autour de moi qui ne parlaient que de choses d'adultes, c'est-à-dire essentiellement de politique, ce qui m'intéressait, mais malgré tout jusqu'à un certain point. Donc très tôt, j'ai pris l'habitude de me réfugier, dans les livres, en tout cas quand j'étais à la maison, et d'y trouver une sorte de chaleur, en fait, que je n'avais pas forcément toujours. Autour de moi, d'y trouver des amis, d'y trouver aussi des sensations, hein, c'est ça que font les livres, ils aident à savoir ce qu'on est en train de ressentir. Donc c'est clair que comme beaucoup de gens, la littérature m'a sauvé ou m'a fait être celui que je suis à titre personnel, mais en même temps m'est apparu comme un lieu possible pour des raisons là effectivement très personnelles et liées à mon environnement immédiat et à cette omniprésence de la politique, parce que la littérature échappe au discours. La manière dont elle est forcément beaucoup plus complexe qu'un discours politique. Un discours politique ne peut pas englober en fait un livre, toute la profondeur, toutes les contradictions internes qui y sont, puisque le but presque du discours politique, c'est justement de les gommer, ces contradictions. Or, ce sont ces contradictions qui nous font être des êtres humains. Donc je pense que plus tard, après, c'est ça que j'ai vraiment ressenti et puisé dans la littérature pour m'opposer d'une certaine manière, pour trouver un chemin qui m'était propre hors de ces discours totalisants dans lesquels je pouvais être.
Antoine Silvestri, voilà aussi quelque chose que vous partagez avec Karim Misquet, c'est ce plaisir pour vous de dessiner, lui de citer les phares qui ont éclairé notre nuit à un moment. Vous aussi, vous avez les mêmes passions que Karim pour certains écrivains. En tout cas, la politique, on voit bien la manière dont vous l'avez dessinée, c'est votre environnement.
Clairement.
Est-ce qu'il y a aussi ce coffre au trésor dans lequel vous êtes appuyé pour trouver votre chemin ?
Alors, en matière de littérature, malheureusement, pas du tout, parce que je lis assez peu de littérature. Je lis beaucoup d'histoire, de politique, justement. Et par contre, oui, moi, mon refuge, c'est bien sûr, c'est la peinture, le dessin. Je suis un fan absolu de l'Italie. Dès que je peux, je vais là-bas. Moi, je suis capable de pleurer devant un tableau, devant un dessin. Je sais que le premier refuge d'un dessinateur, c'est tout simplement quand il s'embête en classe, il dessine au lieu d'écouter. Quand ça l'embête. Moi, je m'inscris complètement là-dedans. Ouais.
Et en plus, alors j'ai vu que vous aimiez bien dessiner des hommes politiques du passé. Vous avez pris un grand plaisir à dessiner le général de Gaulle dans le film Hubert Beuve-Méry contre le général de Gaulle. Là, on voit aussi pas mal de ces figures politiques, et notamment Staline et l'Albanie. C'est ça, vous y retrouvez bien.
Ah ouais, bien évidemment. Moi, quand j'étais petit, j'étais envoyé en Autriche en colonie de vacances communiste. Ça existe. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ça existait en tout cas.
Donc on peut ensuite en sortir et continuer à vivre.
Justement, c'était les plus belles années de ma vie, parce que c'était tout à fait à l'opposé de la caricature qu'on peut s'en faire. Il n'y avait pas d'uniforme, pas de levée au drapeau. La seule chose qu'on nous apprenait, c'était la haine du racisme, l'écologie, que les trucs cool. Dès qu'il fallait faire une affiche ou dès qu'il fallait faire une banderole, quoi que ce soit, c'est moi qu'on allait chercher. Donc évidemment, très vite, on se met à dessiner. Et puis, quand à 14 ans, on découvre les fanzines, très vite, on fait de la caricature de politique. Dessiner Staline, Marx, De Gaulle, tout ça, oui, c'est un vrai plaisir. Ouais.
Alors, dans votre panthéon personnel, Karim Misquet, on a entendu Annie Ernaux, bien sûr. Il y a aussi, et ça ne pouvait pas échapper à l'humeur vagabonde, puisque nous nous plaçons tout le temps sous sa tutelle bienveillante, Hannah Arendt. Hannah Arendt a été pour vous une rencontre décisive. Bien sûr, les origines du totalitarisme, mais pas que. Parce que Hannah Arendt vous a appris aussi qu'on pouvait cesser d'appartenir, se retrouver et s'appartenir, et qu'il fallait de toute façon toujours tracer un chemin en dehors des « ismes », disait-elle.
Oui, c'est sûr que l'itinéraire de sa vie, de toute façon, parle de ça, en fait. C'est ça que ça raconte, y compris d'ailleurs, elle expliquait, je sais plus où, qu'elle n'aurait pas pu se marier avec un juif, même pas un juif allemand, mais parce qu'elle aurait eu l'impression d'être à l'intérieur. Donc elle cherchait toujours forcément à aller ailleurs, l'autre, la différence, elle ne pouvait pas adhérer à une identité quelle qu'elle soit. Puis sa vie a été faite de suffisamment, comme d'autres gens de sa génération, malheureusement, en Allemagne ou en Europe, de suffisamment de ruptures. Et d'une certaine manière, elle cherchait toujours, elle cherchait pas spécialement à être populaire ou à être, comme le montrait bien le film de Margaret von Trotta, toute la période autour du procès Eichmann. C'est-à-dire qu'elle n'hésitait pas à dire des choses qui étaient totalement inaudibles et qui pourtant étaient assez fondamentales. Parce qu'en fait, après on a beaucoup discuté, je vais pas discuter sur la validité de sa théorie sur la banalité du mal. Aujourd'hui, ça peut être revu peut-être avec plus de distance, mais il y avait au moins une chose qui était très intéressante là-dedans, c'était de dire, ok, c'est bien de regarder le salaud, mais il faut aussi se regarder soi-même, parce que c'est quand même quelque chose de profondément humain, ce qui s'est passé là, dans l'inhumanité. Et moi, c'est beaucoup cette partie-là qui m'intéressait. Après, effectivement, j'ai lu Les origines du totalitarisme, je pense, sur 2 ans, un peu dans le désordre. Je crois que j'ai commencé par l'impérialisme, après sur l'antisémitisme, et après le système totalitaire. Et c'est vrai que j'en suis sorti un peu abattu pendant un certain temps. C'est pas une lecture dont on sort nécessairement indemne, mais sans doute aussi parce que ça faisait écho avec ce que j'avais vécu dans les engagements politiques de ma mère, donc qui avait soutenu l'Albanie d'Enver Hoxha, qui était ce qui restait en Europe, en tout cas, comme enfin de plus totalitaire en Europe. C'était un peu comme la Corée du Nord en Europe, hein, pour ceux qui n'ont pas connu. Maintenant, on a oublié ce que c'était que l'Albanie et l'Enver Hoxha. Déjà, à l'époque, tout le monde ne connaissait pas, mais là, aujourd'hui, aujourd'hui on sait, ce qu'on connaît de l'Albanie, c'est éventuellement la mafia, ce qui est quand même une autre histoire. Et donc, moi, j'y étais allé avec elle deux fois en vacances, et je pense qu'il y avait quelque chose qui m'avait profondément marqué dans ces voyages, mais qu'évidemment, étant enfant, je ne pouvais pas identifier. Et que la lecture d'Arendt à l'âge adulte m'a aidé vraiment, comme celle d'Orwell quand j'avais été plus jeune, mais j'étais encore un peu trop jeune. Quand j'ai lu Arendt, j'avais un peu plus de 30 ans. Et là, j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose de profond. Et il y a un effroi qui s'est saisi de moi à ce moment-là, en me disant « Ah oui, en fait, j'y étais. Je suis allé au cœur de ce truc. »
Et parfois, Hannah Arendt, elle s'est réconfortée. Alors, on n'allait pas se priver du plaisir de la voix d'Hannah Arendt.
J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme.
Moi, je me sers où je peux.
Je prends ce que je peux et ce qui me convient. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
You know what, René Char, c'est notre héritage né précédé par aucun testament. This means we are entirely free.
Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé.
Well, only conviction.
Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. To think always means to think.
Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
Je pense que non-thinking est encore plus dangereux. Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
1973, Karim Misquet, Antoine Silvestri, voilà, réfléchir, c'est dangereux, mais ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. J'imagine que ça pourrait être la devise de notre troupe de scouts. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, non, c'est très salutaire comme manière de penser, effectivement, et d'autant plus à la suite de ce XXe siècle qui nous a quand même apporté beaucoup d'innovations. Pas forcément les meilleurs au niveau politique. Oui, la pensée critique, elle parle de la pensée critique à un moment. Je pense que c'est la chose la plus importante.
On va mettre Antoine Silvestri à la lecture d'Hannah Arendt, je sens.
fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light.
Smith, qui est dans Appartenir et dans S'appartenir à Elsa Denac, la transition est toute trouvée. Hein.
Je suis d'accord.
Rock and roll, Elsa, toujours. Elsa, vous avez lu N'appartenir, vous avez regardé avec intérêt la bande dessinée S'appartenir, et du coup, vous êtes partie jusque sur les bords de la Méditerranée pour nous rapporter
un autre S'appartenir, N'appartenir.
Voilà.
Avec Salima Senini, elle est née en Algérie, elle est arrivée au Val Fouré à l'âge de 3 mois, en mars 77, et en 2013, elle publie Du côté de chez moi aux éditions Les Arènes. Elle y témoigne de son enfance et de son émancipation. Comment fait-on pour se construire quand on est une femme issue de l'immigration? Le décor de départ, c'est le Val Fouré, un quartier de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, dans le 7-8. Salima y habite avec ses parents et ses 7 frères et sœurs dans un 2 pièces. Son HLM, sa cité, c'est un îlot qu'elle appelle Mini Bled. Ensuite, elle grandit, elle part, elle se libère à Paris, aujourd'hui à Toulon. Elle nous raconte son histoire, une histoire qui commence au Val Fouré.
Aujourd'hui, c'est un village enfermé, un peu comme les Astérix et Obélix, genre les irréductibles, mais pas gaulois. À la mode mini-bled en France. Quand on y habite, on s'y sent bien, mais quand on sort, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes droits, qu'on n'a pas les mêmes chances. Et ça nous saute à la figure. Et ça, c'est la première des colères qu'on ressent quand on sort d'un ghetto. Et on dit, putain, on n'a pas la même chance que les autres. Et c'est là qu'il va falloir se battre plus que les autres. Je me souviens très bien de certaines scènes qui étaient hyper traumatisantes, hyper dévalorisantes. Je me souviens d'une prof de sciences de la vie et de la terre, SVT, où j'avais eu 2 sur 20. Et qui m'a dit « Salima, vous finirez femme de ménage ». Il y a eu énormément de clichés, il y en a et il y en aura toujours. Puisque de toute façon, la différence, on le porte sur la figure. C'est tous les jours où il faut prouver qu'on est une femme libre. Et quand on est d'une double culture, quand on est issue de ma classe sociale, mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Quand j'entends mon fils qui dit « Moi, je suis algérien », alors qu'il a une pièce d'identité française, je trouve qu'il y a un truc qui a été loupé. À mon époque, on revendiquait vachement le fait d'être français. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas essayé de comprendre, on a juste essayé d'assimiler les gens. Quand on parle d'intégration, mais moi je suis super en colère. Qu'est-ce qu'on nous saoule avec l'intégration? Enfin, moi je suis déjà désintégrée à la base parce qu'on m'a déjà foutue dans une banlieue. Pourquoi est-ce que quand je vais au travail, on me dit « Ah bon, t'as pas pris ton jour de repos parce qu'aujourd'hui c'est l'Aïd ?» C'est le collègue qui est blanc de souche qui me dit ça, qui me renvoie tout de suite, encore une fois, à mon origine. Il y a une véritable schizophrénie qui est complètement déstabilisante. Et quand je parle de combat, et ben le combat il se fait réellement tous les jours en disant je m'appelle Salima Senini et en disant putain merde Salima Senini, tout de suite ça fait déjà encore étranger. Je suis partie de chez moi à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai habité près de chez mes parents. Ensuite, j'ai habité au centre-ville de Mantes-la-Jolie. Ensuite, je suis partie à Paris. Ensuite, je suis partie en Alsace. Et maintenant, je suis partie à Toulon. Et la liberté, elle s'étend au fur et à mesure. Et par exemple, aujourd'hui, je suis à Toulon, dans cette ville anciennement FN, tout proche de mon pays. Et c'est là, en fait, que je me sens le plus française. Tout ce côté méditerranéen, il y a réellement une double culture en fait qui est de fait et qui est là bien présente et qui existe pour de vrai ici.
À Toulon.
À Toulon. Eh oui. On peut aller parler à la dame là-bas. Bonjour. Alik. Alik Mriha. Elle dit qu'elle est assise, qu'elle est tranquille. Elle regarde le monde. Elle dit qu'elle est rakihna França. 40 ans qu'elle est en France. Oui. Et vous parlez français ?
Non.
Pourquoi ? Parce qu'elle a grandi dans sa famille, elle dit. Comme ma mère. Kifima. Je dis, est-ce que son mec était bien ? Elle dit, non, c'est les enfants qui sont bien. Mabrouk. Allah khalik, amin. Salama. Le bateau m'appelle pour retourner au bled. C'est ce qu'on dit avec mon fils. On dit, si Marine Le Pen passe, on aura toujours moins de trajets à faire par bateau, puisqu'on habite maintenant à Toulon. On est tout le temps dans les clichés. On les porte soi-même. Les gens te les font porter par le regard, par leur façon de faire, par ton nom et prénom, quand tu le notes sur un formulaire. Quand on te demande ta nationalité, on te demande le chiffre de ton département. Et en fait, le chiffre de mon département, comme je suis née en Algérie, et ben c'est 99. Et 99, ça n'existe pas en France. Et moi, je suis française aussi. Mais en fait, il faut que je note 99. Mais je viens du 7-8, aujourd'hui du 8-3. Je n'ai même pas d'identité dans des formulaires. Depuis 40 ans, je me trimballe ce 9-9 invisible. Ça ne m'aide pas.
Oui, alhamdoulilah.
Moi, je suis venue quand l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'était français. C'est, sur ma carte d'identité, c'est marqué français de souche algérienne. Et après, quand il y avait l'indépendance, ils nous ont demandé soit là qui veut devenir français, il reste français, soit là qui veut devenir algérien, il va algérien. Et moi, j'ai dit je reste française. Moi et mes enfants, ils sont nés là et tout.
Vous avez l'air d'être hyper clair dans votre tête. Je suis bien consciente que je cumule toutes les faiblesses qu'aujourd'hui une société ne peut pas accepter. C'est-à-dire que je suis d'origine algérienne, je suis femme, mère célibataire. Heureusement que je ne suis pas lesbienne. Et ben ouais, des fois, j'ai envie de tout plaquer, de faire mes valises et de me dire ben, je retourne dans ma cité. Mais pour rien au monde, je changerai ma vie. J'ai appris à réfléchir autrement. J'ai appris à réfléchir non pas avec les cornes de gazelle, mais avec les livres, avec la musique, avec la culture française. Aujourd'hui, là où je suis reconnaissante, c'est à la fois à l'école. L'école de la République qui m'a complètement transformée. J'aime bien dire l'école de la République. Bah, même dans la cité, il y a l'école de la République et qui transforme aussi ces petits-enfants qui sont complètement perdus dans l'immigration. L'école m'a appris à sortir de façon différente. Elle m'a appris à aller voir des pièces de théâtre, elle m'a appris à lire, à tuer mon temps autrement qu'en faisant la cuisine. L'écriture a été pour moi la première liberté que je puisse avoir. C'est-à-dire que dans une famille nombreuse, il a fallu que je trouve un moyen de m'ouvrir au monde. D'abord, j'ai commencé avec ma famille, ensuite j'ai commencé avec mon quartier, et au fur et à mesure, ça s'est étendu. Et l'écriture m'a permis d'avoir un autre regard qui était posé d'abord sur moi-même et ensuite sur les autres. Ça a été la première des libertés qui m'a permise, en tout cas en tant que femme issue de l'immigration, aussi de m'exprimer et de dire ce que je pensais tout bas. C'est le premier pouvoir que j'ai eu. Je témoigne pour toutes les femmes invisibles et qui se battent pour la liberté et pour toutes ces femmes qui sont le cul entre deux chaises.
Donc Salima Senini, elle est aussi à lire du côté de chez moi, c'est aux éditions Les Arènes.
Merci beaucoup Elsa Denac, Antoine Silvestri, Karim Misquet. Finalement, tout le monde a les mêmes recettes, hein. Il n'y a pas à dire. La musique, les livres et puis réfléchir.
Oui, bah oui, pour arriver à construire sa propre sensibilité, on a besoin de celle des autres et de ceux qui étaient là avant nous. Il y a aussi une grande, quelque chose d'extraordinaire qui est offert par la littérature, c'est que on a la littérature de tous les siècles qui nous précèdent et qu'on peut se retrouver en communion avec quelqu'un qui a vécu au Moyen-Âge ou au 19e siècle et ça ouvre une sorte d'océan de possibilités.
Et puis Antoine Silvestri nous dirait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la peinture, le dessin.
Nous permet aussi de communier avec des gens.
Ouais.
Tout
ça crée une appartenance, donc finalement c'est plutôt... Bon, on arrive plutôt... En fait, on était parti d'un constat pessimiste et on arrive à un constat optimiste. C'est plutôt chouette, non?
Je trouve que c'est un peu ce qui explique aussi le passage de n'appartenir à s'appartenir. Mmh.
Et ben voilà, c'est une très belle bande dessinée. Vous pouvez dire roman graphique, on vous mordra pas, mais c'est une bande dessinée. Elle est signée Karim Misquet et Antoine Silvestri. Elle vient de paraître aux éditions Viviane Ami et je vous la recommande vivement. Merci à tous les deux d'être venus. Au revoir. Merci. L'humeur vagabonde s'en va sur la pointe des pieds jusqu'à dimanche prochain, mais bien sûr France Inter continue. Après les infos de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière pour les Saventuriers. Et tout de suite, ce sera les informations de 15h. Très bonne journée à l'écoute de France Inter.